ce chemin de non-violence que tu as choisi depuis des années, depuis que tu es tout petit, qu'est-ce que ça change en toi, en tant qu'être humain, en tant que personne?
Alors, je ne sais pas si je l'ai choisi depuis que je suis tout petit, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt un cheminement, moi, je dirais.
Oui.
Je dirais que c'est un cheminement. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vécu, quand je parle du Roubaix, de quand on était gamin, c'est l'hyperviolence. C'était déjà la violence sociale, la précarité, les dégâts, les déchirures dans l'âme, dans le cœur, dans la chair, dans les corps, et cette violence quotidienne, physique, voilà, ça faisait partie du décor. Donc, c'est sûr que quand tu as vécu, que tu as grandi là-dedans, je disais, vraiment, moi, dans mon enfance, quand on était gamin, on passait entre les gouttes, on a vécu une enfance hyper heureuse, mais ça faisait, le décor, c'était ça, quoi. Le décor, c'était la violence extrême. Je pense que tu es d'une certaine manière vacciné contre ça, quoi. D'une certaine manière, tu vois pas d'horizon. Quand tu vois les dégâts que ça cause, enfin, je veux dire, tu les vois, tu les vis, tu les sais, enfin, jusque très près autour de toi, c'est pas quelque chose que t'as envie de reproduire, c'est sûr. Et ce que tu as envie au fond de toi, c'est de te dire, ben voilà, est-ce qu'il y a un chemin qui peut m'éloigner de ça? Parce que là, je ne vois pas ce qu'on peut construire, je ne vois pas ce qu'on peut bâtir, je ne vois pas d'horizon, je ne vois pas un but qu'on pourrait atteindre en passant par ce chemin-là, quoi. C'est le chaos. Enfin, et c'est des images, moi, très concrètes, quoi, que je vois. Donc, c'est sûr que ça te donne envie d'aller à l'extrême opposé. Ouais.
Quand j'ai entendu une de tes interviews, tu disais la violence est un aller sans retour.
Ouais.
Et ton rôle, puisque tu dis, mon rôle, ce serait la part du rêve, rendre possible dans la tête et l'imaginaire un possible changement par l'action non violente.
L'art, la culture, oui, c'est le royaume de l'imaginaire. C'est ce que tu dis en mots et les pensées que tu peux exprimer, les images que tu construis. Je veux dire, rien ne prouve, rien ne dit jusqu'à preuve du contraire qu'elles sont irréalisables et qu'elles ne seront jamais réalisées. C'est ça qui est beau. On peut peut-être, certains diront oui, mais tu te berces d'illusions. Mais prouve-moi que ce sont des illusions. Et tant que tu ne m'as pas prouvé que ce sont des illusions, je peux avancer vers ce chemin. Et peut-être qu'en avançant sur ce chemin, j'en trouverai un autre. Mais ce mouvement-là, c'est-à-dire que tu vis parfois dans des époques où tout est fait pour qu'on n'ait pas le moindre début de mouvement. C'est-à-dire pour qu'on accepte la réalité telle qu'elle est, on nous dit qu'il faut être réaliste. Jusque même dans la politique, la réelle politique. Oui. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas changer le monde, on ne peut rien changer. Il faut faire de la réelle politique. C'est-à-dire qu'il faut abonder dans le sens d'une époque, des lobbies, et puis l'autorité, et puis le peuple, c'est un enfant qu'il faut savoir, etc. etc., etc. Et c'est sûr que les artistes sont fous, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est beau, moi, c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je fais ce métier, mais c'est ça qui est nécessaire et qui est vital. J'ai fait quelques années, j'ai écrit un texte, Le Tzigane et la fourmi, et pour moi, c'est ça, c'est que dans une époque où on veut toujours courir plus haut, plus vite, plus loin, où on est en compétition les uns avec les autres, qui s'émancipe de ça? Qui s'émancipe de ça? L'artiste, je suis pas le seul, mais l'artiste, par définition, il s'émancipe de ça. Et pour moi, ça, c'est le cœur du problème, de ne jamais vouloir s'arrêter, de vouloir toujours être en compétition, de vouloir toujours... c'est le cœur de tous nos problèmes, de tous les maux de notre société. Et des gens qui disent, peut-être qu'il faudrait qu'on ralentisse, peut-être qu'on peut voir les choses autrement, peut-être que cette grande route où on nous dit qu'on est en sécurité, peut-être que c'est une route qui nous amène à l'abattoir, ou on ne sait pas, et peut-être que les petits chemins de traverse, déjà on sera plus heureux, rien que ça, déjà... on se sentira plus vivant. C'est plein de petites choses qui nous donnent envie de quitter cette grande route. Et en ça, ça a quelque chose de révolutionnaire dans l'époque qui est la nôtre, parce que c'est l'époque hyper normée. C'est une époque où tu as l'impression qu'il y a une volonté d'avoir le contrôle sur tout, sur la moindre des paroles, sur la moindre des pensées, pour peu que tu ne sois pas d'accord avec le cadre... communément admis, médiatiquement, politiquement, ça y est, horreur, malheur. Et donc, c'est sûr qu'on est peut-être dans cette époque-là, en première ligne, comme au moment de la crise du coronavirus, c'est pas pour rien, on s'est retrouvés en première ligne quand ils nous ont dit vous êtes non essentiels.
Ouais.
Parce qu'au bout de cette crise, il y avait cette idée-là, auto, métro, boulot, conso, dodo. Et puis à un moment donné, pour que la machine économique continue à tourner un petit peu, Ben voilà, on va te mettre un couvre-feu. Puis à 20h, 19h, 18h, le week-end, ça y est. Et là, les gens ont vu, ont ressenti ça. Et des gens se sont dit, mais c'est pas possible. On n'est pas bon qu'à ça. Et c'était un choix politique, c'était un choix idéologique qui était posé clairement sur la table. Et c'est sûr que nous, en tant qu'artistes, on a été les premiers touchés. Et en tant qu'artistes, si on fait ce métier-là, c'est qu'on a une attirance vers la liberté, vers le libre arbitre, vers le fait de pouvoir choisir sa propre voie. Quand tu deviens artiste, c'est qu'à un moment donné, tu as été pas raisonnable, entre guillemets, au sens conventionnel. Tu n'as pas été conventionnel.
Ouais.
Et peut-être que les combats de notre époque, c'est la liberté de certaines personnes de pouvoir ne pas être conventionnel et que cette liberté-là puisse inspirer d'autres gens et qu'au final, on puisse se dire, il y a deux choix. Il y a le choix d'une société du contrôle qui peut se justifier. On trouvera toujours des raisons de la justifier. Quand c'est, à un moment donné, des attentats terroristes, je veux dire, la tentation est grande, surtout quand c'est la peur qui nous domine, la tentation est grande de dire, voilà, il nous faut plus de contrôle, beaucoup plus de contrôle, il faut tout contrôler, il faut mettre des caméras partout, il faut etc. Sinon, les terroristes vont tous nous tuer. Je veux dire, ça répond d'une certaine logique. Et si on est guidé par la seule peur, on est d'accord avec ça. Si on laisse la peur nous dominer, on est d'accord avec ça. Si on se nourrit avec d'autres choses qui nous rendent vivants, qui nous rendent humains, on se dit, ouais, mais là, attention, on va peut-être... on se calme. Et c'est pour ça que la logique de l'état d'urgence est dangereuse. Quand il se passe, moi, quand il se passe un événement majeur, qui a un état d'urgence, 3 jours, 3 semaines, ok, parce qu'il y a quelque chose, il peut y avoir un moment donné à gérer. Mais quand on l'installe sur 3 mois, qu'il devienne 3 ans, et après, oui, on s'arrange pour que la loi commence, la normalité commence à intégrer des faits de l'état d'urgence, c'est pas possible. On ne peut pas, en tout cas, avancer dans une société démocratique en disant on n'a pas le temps. Il n'y a rien de plus antidémocratique que ça, de dire on est obligé de faire ça parce qu'on n'a pas le temps. Ça peut s'entendre sur 3 jours, 3 semaines, mais au bout d'un moment, non, il faut que la démocratie, le débat contradictoire, reprenne sa place.
Mm-hmm.